Chapitre 26. Parc national de la Guadeloupe. 10 heures. Un grain violent tombe sur la soufrière. Une pluie tropicale chaude, drue, qui cesse parfois quelques minutes pour reprendre ensuite avec plus d'intensité encore. Une pluie presque permanente sur le volcan, où s'accrochent les nuages poussés par les alizés, en contraste avec le ciel bleu le long du littoral. Plusieurs groupes de policiers progressent sur les chemins transformés en torrents de boue. Le premier, le long de la ravine Grosse Corde, est emmené par Valéric. Le deuxième remonte le galion avec Amiel. Un troisième explore la face est de la montagne à partir de la rivière de la Capesterre. Jolaine les rejoint dès qu'elle peut. L'urgence est ici, sur le terrain, pas sur une île voisine. Valéric a annulé au dernier moment le déplacement de son adjointe à Antigua, en business class. Les seules places qui restaient que le sous-préfet avait accepté de payer. « On ne prend aucun risque, Cancel, » a assuré Valentin le cocu. « Mobiliser autant d'hommes et de femmes qu'il le faut, on doit coincer ce harponneur, quoi qu'il en coûte. Si ce vieux foot qu'un boiseur a déliré, vous en serez quitte pour une randonnée en forêt. Mais imaginez qu'on ne fasse rien et qu'un groupe de randonneurs ou de chasseurs tombe sur un cadavre de femme. Une femme que peut-être nous aurions pu sauver. » Je sais qu'aucune disparition inquiétante ne nous a été signalée, mais imaginez qu'on ait affaire à un tueur en série, Cancel. Ou à une organisation criminelle. Ces assassins d'aube. Valéric imagine. Les policiers sur le terrain sont en liaison permanente avec la responsable du service informatique de la DZPJ, Mireille Fontanelle, une lieutenante aussi discrète qu'efficace. Au sec dans son bureau, elle liste toutes les cascades recensées dans le parc national. Un agent de l'Office national des forêts a été convoqué en urgence aux abîmes pour dresser la localisation de tous les arbres remarquables. En croisant les deux informations, ils ont déjà identifié une dizaine de sites potentiels correspondant aux visions d'Évariste Pigeon. Gervais Bienvenu continue de l'interroger, mais le quimboiseur est redevenu muet. Il prétend que ses visions sont passées, qu'il ne les contrôle pas, qu'elles s'imposent à lui au moment où il s'y attend le moins, quand la mort rôde et frappe. Le talkie-walkie de Valéric grésille sous sa cape de plastique ruisselante.
« Chef, c'est Chevy. On est parvenu à la troisième chute du Carbet. On aurait pu y aller en canoë tant ça dégouline dans les ravines. Aucune trace de femme. On peut la rayer de la liste. »
Ils ont déjà visité 5 des 12 sites retenus. L'expédition prend presque une heure à chaque fois. « Si l'œil noir s'est foutu de notre gueule, » pense Valéric, « c'est réussi. » 30 flics cavalant toute la journée sous la pluie tropicale, simplement parce qu'un charlatan notoire a eu une hallucination au petit déjeuner.
Valéric, c'est Amiel. On progresse en direction de la chute du Galion. Je suis pile face à un arbre géant, mais on dirait plutôt un gommier qu'un accommat de boucan. Et rien qui bouge, pas même un raton laveur. Avec ce grain, ils sont tous rentrés dans leur terrier.
Valéric continue d'avancer le long de la ravine Grosse Corde, suivi par 9 hommes. Tous recouverts d'une cape plastique transparente, protégeant leurs armes et leurs talkie-walkie.
Quand j'étais môme, déclare l'agent le vif, la pluie dans la forêt, j'adorais ça.
Et moi, nuance Musard,
on m'a toujours dit qu'en cas de grain violent, il fallait surtout pas marcher dans le lit des torrents.
Valéric est conscient du risque. À n'importe quel moment, il pourrait être entraîné par une crue ou une coulée de boue. Ses pieds s'enfoncent dans la terre gorgée d'eau jusqu'aux genoux, et le niveau continue de monter. Il a l'impression d'être recouvert d'une cellophane qui colle à ses joues, son cou, ses mains, ses cuisses. Il sillonne le parc national de la Guadeloupe depuis déjà 2 heures. Encore 1 heure, s'encourage Valéric. Le temps d'atteindre les 5 dernières cascades. Ensuite, il laisse tomber. La DZPJ n'a toujours reçu aucun signalement de disparition. Si une femme avait été enlevée ou assassinée, l'alerte aurait été donnée. Un pas de trop, Valéric plonge dans le torrent jusqu'à la ceinture. Putain de jungle, putain de nature. Il a effectué des dizaines de planques et de tracks sous la pluie de Normandie, mais rien de comparable à cette douche incessante. Il marche près d'une demi-heure supplémentaire avant que le talkie-walkie du commandant sonne à nouveau.
Valéric, c'est toujours Amiel. Je suis à la cascade Parabole. Rappliquez aussi vite que vous pouvez, j'ai trouvé.
Valéric s'arrête en équilibre sur une pierre glissante au milieu des flots. Il fait basculer sa capuche pour laisser la pluie fouetter son visage.
T'as retrouvé la femme ?
Non, mais j'ai devant moi le dernier homme à l'avoir vue vivante.
Passe-le-moi !
Ça va être difficile. Il est attaché à un arbre et à moitié noyé.
Parc national de la Guadeloupe, 11 heures.
j'ai croisé une patrouille de policiers. Je roulais, ces idiots n'ont rien vu. Qu'auraient-ils pu voir, d'ailleurs? Les phares d'un véhicule au loin sous un rideau de pluie. Des gerbes d'eau sous mes pneus. Une ombre derrière le volant. Comment aurait-il pu se douter que j'emportais la fille qu'il cherche? Audrey restera quelque temps à l'abri. J'ai eu le temps de tout organiser, d'immortaliser la scène. Je reviendrai la chercher plus tard. Pour que les flics la trouvent cette fois. Et si à l'aube ils n'en sont toujours pas capables, j'enverrai un courrier pour les aider.
Cascade Parabole, Parc National de la Guadeloupe, 12h. Les policiers ont monté à la hâte une tente marabout amarrée au tronc voisin. L'eau continue de dévaler sous leurs pieds, mais le toit de toile leur fournit un fragile abri. Le vif a enfoncé une chaise pliante dans la terre pour que l'homme libéré de ses liens puisse s'asseoir. Le brigadier, Simon Fiston, le responsable médical de la patrouille, lui a fourni une couverture de survie sèche et l'a forcé à avaler une soupe chaude et des tablettes énergétiques. L'homme en hypothermie a passé 5 heures ligoté au tronc de la Comate Boucan sous la pluie. « On va vous évacuer », indique le secouriste. « Dans 15 minutes, vous serez à l'abri au sec à la brigade de Basse-Terre. » L'homme proteste en claquant des dents.
« Non, non, il faut m'écouter. Il faut retrouver Audrey. »
L'homme s'appelle Fabien Collin. Il essaye de s'expliquer avec des mots précis et saccadés. Il résume sa randonnée jusqu'au col de l'échelle avec Audrey Colombel, sa compagne de voyage. Son envie de s'éloigner pour une nuit de camping sauvage. Les bruits qu'ils ont entendus dès hier soir sans s'inquiéter. Du moins pas Audrey. Puis rien. Le matin, Audrey se lève avant lui, marche, avant de revenir le retrouver, 1 heure plus tard. Il dormait encore quand il a été assommé, il n'a rien vu, rien entendu. Quand il s'est réveillé, il était attaché au tronc, bâillonné. « Vous n'avez pas pu voir votre agresseur ?» demande Valéric. Le randonneur secoue doucement la tête.
« Non, il est resté dans l'ombre des arbres, à attendre qu'Audrey revienne. J'étais là-bas. »
Fabien Collin paraît frigorifié. Sa couverture glisse de ses épaules et il n'a pas la force de la remonter. Jolène doit l'aider. La capitaine a rejoint ses collègues transis sous la pluie. Sèche mais frustrée. Leur faisant remarquer qu'à cette heure précise, elle aurait dû boire du champagne en business class sur le Pointe-à-Pitre Antigua. Elle confirme le diagnostic du brigadier Fiston. Leur témoin ne tiendra pas longtemps ainsi, sous un arbre de fortune ouvert aux Alizés.
Quand Audrey est revenue, j'ai essayé de lui faire comprendre d'un regard, d'un... Mais c'était trop tard. Il était caché, tout près, dans la forêt. Elle pouvait pas le voir, pas plus que moi. Mon Dieu, je sais pas.
Vous ne savez pas quoi ? Demande Jolène en se baissant à sa hauteur.
Si Audrey est morte, elle s'est écroulée. Il a tiré son corps à travers les arbres. J'ai attendu, puis j'ai entendu un bruit de moteur tout près, avant que la pluie ne se mette à tomber.
Fiston leur fait signe qu'il est temps d'interrompre l'entretien. Les bras et les jambes de Fabien prennent une teinte violacée. Ses lèvres bleuissent davantage à chaque phrase. Ses yeux ont été si fouettés par la pluie qu'ils paraissaient pouvoir se détacher aussi facilement que le noyau d'un fruit pourri.
« Reprenez depuis le début », propose pourtant Valéric. « Que s'est-il passé quand Audrey est revenue ?»«
Elle m'a vu. Elle a compris. Elle n'a pas paniqué, mais elle n'a pas eu le temps de fuir. Elle s'y approchait de la forêt et il a tiré. »
« Il a tiré ?» répète Jolène.
« Avec un pistolet de pêcheur, c'est tout ce que j'ai vu. Il l'a harponné. »
Fabien Collin finit par perdre ses dernières forces, et le brigadier Fiston par gagner. Il lui fait avaler un antalgique avant que Musard et le vif l'allongent sur un brancard et l'évacuent dans le fourgon. La cascade Parabole est l'une des plus accessibles du massif de la Soufrière. Un sentier carrossable passe à proximité. En quelques minutes, les 6 agents de la police scientifique ont pris possession des lieux. La pluie s'est un peu calmée, mais tous savent que d'ici moins d'une heure, une averse aussi intense retombera. Cascade Parabole, Parc National de la Guadeloupe, 12h30. Nous savons comment Audrey Colombel a été enlevée, affirme Jolène. Même si la pluie a presque tout effacé, on a repéré des traces de pneus sur le sentier sous la cascade. Chevidijou joue au mac au moulage. Valéric observe la boue dans laquelle il patauge, sans trop d'espoir.
« Musard a prélevé du sang, » enchaîne-t-il, « un peu partout entre la cascade, le torrent et le sentier. Le sang d'Audrey Colombelle, vraisemblablement, mais impossible d'estimer le volume, et donc d'en conclure si la blessure d'Audrey est mortelle. À croire que le tueur a attendu la pluie pour laisser le moins de traces possible derrière lui.
« Au moins possible ?» répète Amiel. « Mais il a peut-être commis une erreur. » Les regards de Valéric et Jolaine s'illuminent. Le vif a fait une découverte, un détail peut-être décisif. Un cheveu dans la tente entre les duvets et le matelas autogonflant. Il ne semble correspondre ni à ceux de Fabien Collin, trop long, ni à ceux d'Audrey Colombelle, trop clair. Qui d'autre que le tueur aurait pu le perdre ?
Valéric s'adosse au tronc monumental de la Comate Boucan. Enfin une bonne nouvelle. Un indice solide et concret. Le procureur et le sous-préfet Lecocu vont apprécier.